Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une légende du football français, Alain Giresse. Ce joueur de poche est un géant de son sport, milieu de terrain infatigable à la vision de jeu inégalée, d'une élégance rare, passeur, buteur, tireur de coups francs, capitaine. Alain Giresse est le coéquipier idéal, membre du fameux carré magique en équipe de France aux côtés de Michel Platini, Jean Tigana, Bernard Gengini puis Luis Fernandez. Il remporte le premier titre de l'histoire de la sélection, champion d'Europe en 1984. Gigi, comme on le surnomme, est aussi l'incarnation d'une certaine idée de la fidélité. Mis à part un passage à l'OM, l'international tricolore est intimement lié aux Girondins de Bordeaux. Son esprit fédérateur l'amène à devenir entraîneur de nombreux clubs. À 73 ans, il est membre du Variété Club de France avec Jacques Vendroux et consultant football d'Europe 1. Mais Alain Giresse est aussi un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holly Games.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Oui, sympathique présentation.
Ça va changer. Oui, bah attendez, c'est la moindre des choses, Alain.
Eh ben, je vous remercie.
Vous êtes une légende du football et ça nous fait tellement plaisir de vous avoir ici.
Eh ben voilà, moi aussi. Je suis content de partager un petit peu cette émission.
Et ce qui va changer, en plus, Alain, c'est qu'on a l'habitude de s'appeler, de vous interroger pour l'actualité du football.
Ben oui.
Sauf que là, je vais vous parler de votre carrière et surtout de votre rapport à la foi. Ça va changer.
Ah ben, c'est complètement, oui. J'ai déjà fait une émission sur la chaîne KTO, effectivement. Mais oui. Mais parler de son rapport à la religion, oui. Mais ça, c'est quelque chose qui me dérange pas et qui me plaît, effectivement, de pouvoir l'évoquer.
Quatre bougies en face de vous et la tradition, c'est d'en allumer une dès le début de cette séquence. Elle est là. Oui, elle est virtuelle. Hein.
Elle est virtuelle parce que...
Voilà, sinon les éviter. Pompiers vont arriver.
Voilà, exactement. Des flammes dans un studio, c'est pas très bon.
Laquelle vous choisissez? Il y a une verte, une rose, une bleue.
Alors déjà,
une jaune.
J'aime pas la couleur. C'est la couleur qui me dérange. J'aime pas le vert. Donc.
Parce que c'est Saint-Étienne, non?
Non.
Je Bordeaux, le bleu.
Non, mais regardez dans le showbiz aussi. Hein, ils aiment pas cette couleur. Vous verrez.
Alors c'est vrai. Pour la télé, non, on prend pas le vert. Jaune.
La jaune.
Qu'est-ce qui est écrit?
Puisez votre énergie dans le Seigneur.
Vous l'avez puisé, cette énergie, dans le Seigneur?
Je la puise.
Ouais. Voilà. Comment raconter, Alain?
C'est la relation qu'on entretient. Bon, d'abord, comment on y vient? Comment on y vient? C'est parce qu'on est dans une famille, effectivement, qui nous oriente vers la religion. Quand on est gamin, classique, par aller à la messe, aller à l'église, le catéchisme, et puis tout d'un coup, ben voilà, on découvre quelque chose, et en même temps, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on prend la mesure de ce que c'est, de ce que ça représente, la religion, et ce que ça peut nous apporter, et ce que ça peut en tout cas m'apporter. Et je me suis rendu compte que là, c'était plus que d'un soutien, c'était un appui, c'est nécessaire dans la construction de ma vie. On construit sa vie et on se dit, on essaye, quand on construit quelque chose, de mettre tout à tout pour que ce qu'on construit soit solide. Et pour que ma vie soit solide, ben, il a fallu que la religion soit là, soit présente pour me faire fonctionner tous les jours, au quotidien, mais également après, quand je me suis pas lancé, mais quand je suis devenu un professionnel de sport, dans l'occurrence du football, voilà, pour... Mais, entre autres, évidemment, en faisant appel au Seigneur, notamment, à Dieu, pour cela.
Vous êtes né dans un petit village près de Bordeaux?
Je suis né, oui, dans un petit village à 25 km de Bordeaux, voilà, avec...
Une belle petite église?
Une église, oui, deux églises, puisqu'il y avait le Bas-Languaran, donc Bordeaux-Garonne, et le Haut-Languaran, qui était là, et ça fait que quand j'ai commencé à jouer avec les jeunes, c'est-à-dire au Girondins de Bordeaux, très jeune, les matchs le dimanche après-midi, alors j'étais un petit peu habité parce que dans l'église principale, le Bas-Languaran, la messe était à 11h.
Oui.
Mais c'était un peu trop tard pour que je puisse me rendre, faire les 25 km en bus, pour aller jouer avec les équipes des Girondins des jeunes. Donc, avec mon père, on allait à la messe du Haut-Languaran, qui était une heure avant, et qui me permettait donc d'aller à la messe, de pouvoir redescendre, et puis après de pouvoir avoir le temps de prendre le bus. Mais il se trouve que quand j'attendais le bus, il y avait le curé du village qui passait. Et quand il m'a vu à l'arrêt de bus, il s'est arrêté. Elle me dit, mais où tu vas ? Ben, j'ai dit, je vais à Bordeaux. Allez, il me dit, monte. Et en fait, tout d'un coup, et ça me faisait gagner du temps, évidemment, et il m'a mené. Et on a pris un rythme comme ça, c'est-à-dire que j'allais à la messe, donc au Langoiran, c'est lui-même qui la faisait. Donc, quand il passait pour la quête, il me dit, c'est bon pour tout à l'heure, hein, je vais à Bordeaux, donc je te prends. Ah oui, monsieur le curé, ça va, je suis pris comme ça. Voilà, donc ça devenait mon chauffeur, c'est lui qui m'a mené à Bordeaux. Et il savait que vous savez, c'était quelque chose. Hein. Vous savez, à l'époque...
Un curé ? Oui, l'instituteur, le curé, le maire.
Exactement, voilà, le triptyque. Voilà.
Mais il faut toujours aujourd'hui le faire, le respect.
Voilà, oui, moi ça, je fonctionne toujours comme ça, évidemment. Même si on n'a pas les mêmes proximités qu'on avait à l'époque, mais pareil. Et donc voilà, et bien, il m'a mené et il savait que j'allais jouer au foot. Alors il me dit, alors le week-end dernier, t'as gagné, t'as perdu.
Ça se savait dans le vestiaire ou pas ? Est-ce que vous n'étiez pas un peu un ovni ? Vous avez gardé ça pour
non,
vous ?
Non, pas chez les jeunes.
Ouais.
Pas chez les jeunes, on ne parle pas de ça. On ne parlait pas de ça, pas trop, non. Pas trop. Je faisais, bien sûr, je faisais ma communion, j'ai fait ma communion, après j'allais à la messe. Mais justement, en essayant... J'ai pas toujours pu, puisque ça, il y avait en même temps les week-ends.
Ah bon, on joue les week-ends, hein, les matchs, etc.
Les déplacements quand on est après. Non, mais après, oui, au niveau professionnel, c'est-à-dire avec des joueurs adultes, oui, on échangeait. On partageait la même région, notamment à Bordeaux, garçons comme Bernard Lacombe aussi.
On a une pensée, oui, bien sûr, et il nous a quittés, hélas.
Évidemment. Et là, j'ai toujours ce. Bon. De parler de lui, ça m'est difficile. Alors vous allez me dire, oui, mais je dis, en parler est difficile, mais j'oublie pas, quoi, je veux dire, encore, donc voilà, et avec lui on a partagé beaucoup de
mais
choses.
Mais vous croyez en la vie éternelle, donc ça doit aider quand même, Alain.
Oui, mais je sais, vous savez, avec lui, il y a eu une saison où on avait du mal à notamment dans la deuxième partie de la saison, pour arriver à convaincre qu'on allait être champion, et on a demandé à la Vierge de nous aider.
Mais non.
On a demandé à la Vierge et on a dit...
En 1984, c'est votre premier titre de champion, je crois, à Bordeaux, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Donc cette année-là, vous allez à Lourdes, vous faites comment ?
Non, on demande à la Vierge de nous aider. Et on s'est dit tous les deux, on ira la remercier, on n'est pas loin de Lourdes, 250 km, on a dit on ira le remercier. Mais on ira en vélo, on a dit. Alors, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on a été champion, sauf qu'on n'y a pas été en 84 parce qu'il y avait l'Euro. Tous les deux, on était avec l'équipe de France pour gagner le premier titre continental, sélection. Et en 85, on est parti. Alors, on avait notre camping-car devant, avec notre kiné, tout, qui avait les boissons. Et on est parti, on a fait les 200. Et deux anciens cyclistes, qui s'appelaient Guy et Roger Lapébi, qui est de Bordeaux, qui nous ont accompagnés. Et nous, on est partis là-bas, oui. Et on est allés remercier. Et quand il est décédé... Bernard Lacombe, au mois d'août, aux obsèques, dans l'église, j'ai regardé la chapelle de la Vierge. Je l'ai regardé, et je regardais le cercueil, et je disais, je me suis parlé à moi-même. Enfin, j'ai parlé à la Vierge, je lui ai dit, Sainte Vierge, on est venu vous remercier quand on vous a sollicité pour être champion, vous nous avez exaucé. J'ai dit, aujourd'hui, il vient faire le voyage, il le fait maintenant vers vous. Il va venir à côté de vous. Et ça sera un vrai voyage, mais accueillez-le et restez autour de lui, que je sache que vous êtes à ses côtés. Voilà, voilà, je le dis comme je le sens, vous voyez bien que c'est pas évident d'évoquer cela, mais c'est des moments, voilà, sur lesquels, bon, on s'appuie pour vivre ces moments difficiles de perdre quelqu'un.
On parle de Lourdes, j'ai une carte pour vous, Alain Giresse.
Ah, alors...
Quel est le lieu qui vous apaise ?
Une église.
L'église.
L'église, oui. L'église, pas les jours de messe, c'est-à-dire où il y a le monde qui vient à la messe, quand il n'y a personne encore, quelques personnes qui viennent. Mmh. Là, j'y vais alors. Maintenant, j'ai des petits-enfants. J'y vais quelquefois après l'école, je m'arrête parce que les petits-enfants aiment bien aller mettre des cierges à la Vierge, justement. Et puis moi, je médite un petit peu. Ou alors, quand j'y vais tout seul, je passe tout seul. Voilà, je m'arrête. Ça peut être ailleurs. Bon, là, c'est là où j'habite. Mais ça peut être aussi, je ne sais pas, je suis en vacances dans un lieu. Il y a une église. Avec mon épouse, ma famille, hop, on s'arrête et voilà.
Ça vous apaise.
Oui.
Et pendant que vous étiez international, vous étiez au sommet de votre carrière, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pu vous échapper et aller pourquoi pas dans une église? On a eu le témoignage de Fabien Pelous qui à Marcoussis s'était échappé donc pour aller prier. Il y a d'autres témoignages de ce genre comme Jeannie Longo aussi. Est-ce que Alain Giresse, mythique joueur de football, a fait une petite escapade dans une église un jour?
Ben voilà, vous aviez la Coupe du Monde en Espagne. Mmh. Vous savez que les grands stades ont tous à l'intérieur, il y a une chapelle dans les grands stades. Ah oui, vous avez au Nou Camp, vous avez une chapelle. Donc
à Barcelone.
Ouais, ben, chapelle. Oui, dans les grands stades, oui. Donc là, bien sûr, vous l'avez sur place. Ou alors, par exemple, au Mexique aussi. Mmh. Là, par contre.
86.
Oui, là, j'étais dans les églises, dans les villages où on en était. Par rapport à l'espace, oui, j'étais dans des églises mexicaines, dans des pays aussi qui sont très, très religieux.
Bien sûr, au Mexique, oui. Et vous avez demandé à la Vierge de gagner, elle vous a exaucé parfois non.
Vous savez, alors la Vierge, mais aussi, il y a le bon Dieu, vous savez, pourquoi? Parce que j'étais confronté avec, j'ai surtout entraîné des nations, des pays, et que...
En Afrique notamment.
Oui, et avec des pays qui n'avaient pas la même religion que moi. Vous voyez, c'était des pays musulmans. Moi, je respectais, comme je disais, je respectais.
Au Kosovo, par exemple.
Le Kosovo aussi également, oui, bien sûr. Et je respectais. Ça, c'est l'engagement et les convictions. Ok. Parce que je disais toujours, on est changé. De moi, la pratique de ma religion par rapport à la leur. J'ai dit, mais on ne pratique pas de la même façon, mais on doit se comporter tous de la même façon. Le Dieu, il est là, et il nous réclame à vous comme à moi, il nous réclame comment on doit se comporter vis-à-vis de notre comportement, vis-à-vis de chacun, et comme ça. Et c'est là que je disais, quand j'ai interpellé un joueur, j'ai dit, Il faut que tu aujourd'hui tu fasses un bon match comme ça. Et si Dieu le veut. Et moi aussi je me disais ça. Je me dis oui, mais Dieu, il va aussi s'occuper
de l'adversaire.
De l'adversaire. Et c'est ce que je disais. Il va choisir qui. Alors je disais, il faut démontrer. Dieu ne pourra pas choisir. Il est là pour
écoutez, Alain, moi je suis très humain dans ce que je vais vous dire, mais moi je choisis Alain Giresse. Toujours, je choisis l'équipe de France. Alain, il en reste trois.
J'ai choisi, ça y est.
Laquelle? La rose. Alors, quelle est la phrase sur la bougie rose?
Par ta victoire, grandit son éclat. Vous savez ce que j'ai failli lire?
Non.
Sans éclat. Oui. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que la victoire, on est heureux, on est content, mais c'est pas pour ça que tout d'un coup, on doit avoir un comportement de quelqu'un qui, si vous voulez, fait référence à la victoire, je suis le plus fort, je suis le plus beau, etc. Non, ça...
Mais ça vous correspond complètement, c'est-à-dire que l'humilité, moi, la première fois que je vous ai rencontré, c'est quand même monsieur Alain Giresse. Sauf que là, tout de suite, vous nous mettez à l'aise.
Oui, mais pourquoi ça serait différent? Pourquoi, sous prétexte que tout d'un coup, j'ai fait de bons matchs, j'ai marqué des buts, etc., j'aurais un comportement un peu dédaigneux, repoussant les gens, mais c'est fatigant, ça. Non, mais c'est plus sympa. Ah, Cyril, c'est quand même plus sympa d'avoir des échanges avec les personnes, etc. Oui. Notamment, nous, avec tous nos supporters qui sont là, qui vivent par rapport à une équipe ou un match, d'avoir cette facilité d'accès.
On va aller dans un temple du football, on va aller à Bordeaux pour revenir un peu sur votre carrière au stade Chaban-Delmas, le parc Lescure, là où vous avez rencontré aussi le président Claude Béz. Vous en avez vu des personnages dans le football. Et quelles étaient les relations que vous pouviez avoir justement avec ces grands dirigeants, Claude Béz, mais ensuite il y a Bernard Tapie. Comment vous faites pour témoigner aussi de votre foi vis-à-vis de ces personnages emblématiques?
Le témoignage, je pense que on n'est pas là pour démontrer sa foi. Mmh. On la vit. On la vit, quel que soit le président, comme ça. Parce que, je veux dire, chacun est libre. Chacun est libre d'avoir la foi et de la vivre au quotidien. Bien sûr, ok, vous êtes joueur de foot, il faut se préparer et mettre tout en œuvre pour être le plus performant possible. Mais après, le côté privé, ça reste personnel.
Bien sûr.
Et en tout cas, les présidents ne nous détournent pas de notre foi.
Mais Alain, quand on voit certains joueurs se signer avant un match, faire des références au Seigneur comme Désiré Doué en Ligue des Champions quand il marque son but, vous le viviez comment votre foi sur le
terrain ? Vous savez, c'est la même chose quand on parle à Marseillaise, si on parle pour la France. On dit, il faut à tout prix, il faut être prêt, il faut qu'il chante. Moi, c'est le côté démonstratif. Démonstratif, parce que si vous voulez, pour moi, c'est pas parce que vous démontrez, vous signez, que votre foi, elle est réelle. Et elle est vraiment... Vous la pratiquez profondément. C'est ça. Moi, je suis... Comment dirais-je ? Moi, je suis très concrète. Et les choses, il faut que... Quand on dit, on fait. Mais on peut pas.
C'est juste, vous n'êtes pas dans le sentiment. C'est une forme d'honnêteté. Vous êtes dans l'action. Toujours. Alain.
Oui, parce que vous parlez les joueurs ils se signent, le Marseillaise, il faut chanter. Mais moi, nous on chantait pas. Mais je peux vous dire, j'avais la chair de poule. C'était toute une histoire d'entendre la Marseillaise, l'histoire de la France, l'histoire de mon pays, les couleurs que je défendais. Non, c'était ça. Et moi, je dis, je préfère être réel, et non pas démontrer quelque chose qui n'a aucune réalité.
La réalité sur le terrain, c'est que vous étiez un joueur, effectivement, qui allait partout, qui courait, qui était extrêmement technique, élégant, mais vous étiez un joueur bon. Combien de cartons rouges vous avez eu ?
Zéro.
Ben voilà.
Ben non, mais j'étais un joueur offensif, j'ai plus pris de coups que j'en ai donné.
Oui, enfin, il y a des joueurs offensifs qui prennent des cartons rouges, alors.
Oui, parce que, sur quoi ? Sur des contestations, des attitudes qui sont pas acceptables, vous savez.
Il y aura eu matière à faire des contestations dans votre carrière ?
Oui, évidemment, il n'y a rien de plus facile. Surtout contester des décisions d'arbitraire, évidemment.
L'histoire du Koweït, là, vous y étiez, là ?
Oui, j'y étais, c'est moi qui ai marqué le but.
Ben voilà.
Il m'a été refusé. Ben oui, mais à un moment donné aussi...
Et le prince qui descend et qui fait tout un tintouin, non, oui. C'est hallucinant cette image.
Oui, de la même façon, je veux dire, le match France-Allemagne, avec l'événement...
Harald Schumacher-Battiston.
Voilà, et là, c'est un problème. Et si vous voulez, Michel Hidalgo était complètement... il était fou de rage. Et presque à dire, presque on s'en va. Et moi, j'étais le voir, mais j'ai dit, Michel, là, on peut pas arrêter un match, on doit continuer. C'est cruel, ce que je dis, on a un copain qui part sur la civière, etc. Mais nous, on était là, il fallait jouer. Après, on verrait. Mais on peut pas abandonner comme ça. On a puisé dans nos forces, etc. Et puis, moi-même, je dis, par le biais de ma foi, de trouver un petit peu de sérénité pour pouvoir se remettre dans le match. D'ailleurs, on dit, comment se fait-il que vous avez pu remettre ? En tout cas, moi, comme les autres, on est resté concentré sur ce qu'on devait, notre devoir, qui était de jouer.
Oui, ça aurait été un bel exemple aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations, où il y a eu un arrêt de jeu assez important entre le oui. Maroc et le Sénégal.
Oui,
malheureusement, ensuite une décision... On va pas revenir sur cette question, on en a parlé sur Europe 1.
Exactement.
En revanche, est-ce que vous avez pardonné, alors c'est surtout Patrick Battiston, mais est-ce que vous avez pardonné à Harald Schumacher ? Parce que vous avez quand même en face un gardien qui a fait n'importe quoi.
Alors, vous savez... le pardon aussi, le Christ nous a montré aussi qu'il fallait avoir savoir pardonner. Quand il a été sur la croix, Dieu, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut les pardonner, etc. Alors il était crucifié, et là moi je l'ai croisé Schumacher, je l'ai comme je vous vois là.
Quand ça, lors du match ?
Non, après,
ouais.
Après c'était... le tirage au sort pour l'Euro 2024, etc. Et c'était en Allemagne, je l'ai croisé au tirage au sort, il m'a interpellé, Alain, it's good, etc. Et on m'a dit, mais tu lui as parlé. J'ai dit, oui, je lui ai parlé, mais ça n'enlève pas que ce qu'il a fait, c'est pas correct. C'est tout sauf correct. Ça, il peut pas. Je veux dire que c'est lui qui doit s'en vouloir, de se dire, j'ai fait ça. Et moi, ça me dérangerait que je vive avec ça, d'avoir fait quelque chose qui n'est pas correct, qui est malhonnête. Je ne peux pas. Alors, je ne suis pas le meilleur de tous. Je ne suis pas le meilleur. j'essaye que de me dire que je peux aujourd'hui me regarder et de dire, je ne vais pas dire « t'as fait le mieux possible », j'ai dit « j'ai essayé de faire le mieux possible ». Et croyez-moi, j'étais dans des pays où il fallait avoir, il fallait s'investir dans la fonction de sélectionneur, mais je peux vous dire que après tous les à côté qu'il y avait dans des pays où les gens étaient dans de grandes difficultés, je peux vous dire que je me suis vraiment impliqué pour que justement apporter modestement un petit peu d'aide à ces gens qui en avaient besoin.
Georgie, Gabon, Mali, Sénégal, Tunisie, Kosovo notamment, pour ces pays que vous avez entraînés.
Ouais,
et ça a dû être assez folklorique. Mais on y reviendra, Alain, tout à l'heure, en fin d'émission. Je voudrais qu'on continue sur... vous nous avez emmenés avec le maillot bleu, donc on va rester sur le maillot bleu, mais on reviendra après sur Bordeaux, parce que ça a été deux pages importantes. Hein. Il y a les Girondins de Bordeaux, vous gagnez trois titres de champion de France, vous avez été au sommet du foot français, et puis aussi cette équipe de France de football. 82, il y a 86, est-ce que d'une certaine façon il y a encore un regret de ne pas avoir été champion du monde?
Fatalement, on est passé tellement près. On a caressé la Coupe du Monde.
Ouais.
Dans 82 surtout. On a caressé la Coupe du Monde. Et malheureusement.
Surtout, vous marquez le troisième but qui normalement doit vous envoyer en finale.
Évidemment. Alors après, on a subi des faits, on en a parlé, qui nous ont été malheureusement le contraire. Mais oui, voilà. Et c'était une déception cruelle. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous pouvez perdre. C'est football, vous gagnez, vous pouvez perdre aussi. Mais là, impression que c'était une injustice. Le fait qu'on ne se qualifie pas pour la finale. Il y avait une injustice qui était faite, que nous avons subie. Et là, c'est ce qui est dur. Quand on perd, qu'on n'a pas été bon, que l'équipe adverse a été meilleure, là, on n'a rien à dire. Mais dans ces cas-là, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais l'oublier. Jamais l'oublier, cette fameuse demi-finale.
C'est vrai que cette demi-finale reste dans la mémoire de tous les Français. Il y a ce match aussi incroyable, Guadalajara, France-Brésil. Et d'ailleurs, c'était votre dernière Coupe du Monde avant de tirer votre révérence. C'est un match incroyable, ça, non ?
Alors, c'est un vrai match de foot, c'est un grand match de foot, c'est un bon match de foot, c'est un match de plaisir, c'est un match du jeu pratiqué par l'une ou l'autre équipe, des deux équipes, voilà. Il reste toujours dans les mémoires parce que, évidemment, voilà, là, il n'y a pas d'événements qui font sursauter les supporters français, mais au contraire, un match qui est apprécié parce que, voilà, c'est le football pur, à l'état pur, que ce match.
Pendant la Coupe du Monde et les différents euros, il faut qu'on parle d'euro de 84, bien sûr, parce que là, vous êtes pratiquement tout proche du ciel. Vous avez rencontré de nombreux joueurs, vous avez affronté des joueurs. Il y a une image de vous avec Maradona, qui était d'ailleurs un joueur très spirituel, non ?
Oui, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr.
Il y a des églises maradoniennes.
Même maintenant, il y a des églises. Les églises maradoniennes. Mais ça veut dire l'importance, c'est ce qu'il représente pour un pays comme pour l'Argentine, qui... quand on parle d'église maradonienne, ça veut dire, voyez un petit peu, c'est que pour eux, l'église représente quelque chose. Tellement bien que d'en créer une. C'est la démonstration que c'est vraiment un pays qui est vraiment rempli de spiritualité et que là, ils veulent mettre à l'honneur Maradona.
Quel est le joueur qui vous a le plus marqué dans son humilité, peut-être sa foi aussi, mais c'est un lien entre les deux. Foi, humilité, engagement.
Mais lui, il n'a jamais démontré. Bon, lui, on parle de lui parce que c'était un très grand joueur. Mais il était difficile de pouvoir percevoir, justement, quel est le joueur qui était vraiment un attachement à la foi aussi marqué. Quoi, hein. Ça, c'est sûr. Après, vous aviez les pays. Quand vous jouiez l'Espagne, quand vous jouiez les pays sud-américains, l'Italie, etc. Là, on sentait que derrière, il y avait des engagements, envers la foi.
On a encore deux bougies allumées, on en allume une, mon cher Alain.
On va dire la bleue. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Vous avez été faible à un moment donné ?
On se sent faible. Il y a des périodes. Est-ce que je l'étais vraiment ? Mais quelque part, on se dit, oh, ça va pas, je suis pas bien, je suis à côté, je réagis pas, je réponds pas, oui.
Vous le montrez pas, ça ?
Non.
Vous me parliez d'une anecdote avec votre épouse, où vous revenez, il y avait un dernier match, vous gagnez le titre, et puis en fait, vous n'êtes pas content.
Non, mais oui, c'était toujours une remise en cause.
Ouais.
La remise en cause. De s'analyser, surtout analyser. Pas facile, hein. Surtout quand vous gagnez. on a gagné, tout va bien, pas de problème. Et puis vous sentez que vous n'avez pas fait le match que vous souhaitiez. Et en rentrant dans la voiture pour rentrer à la maison, ben, je ne parlais pas beaucoup. Puis il a fallu que j'avais un repère, c'était, il fallait que je traverse la Garonne à Bordeaux pour aller chez, dans mon village. Et là, allez, une fois que j'avais traversé la Garonne, je me disais, c'était pas bien aujourd'hui. Mais t'as gagné. Oui, oui, c'est vrai, je suis gagné. Mais j'aurais dû mieux faire, ça va pas, je suis pas si content. Voilà. Je trouve que c'est ça va. Oui. Je dis pourquoi il faut essayer d'être. Alors, quelquefois, on est plus dur avec soi-même. Mais à la limite, il vaut mieux être plus dur avec soi-même qu'au contraire, se dire, se satisfaire, bon, c'est bon, ça va, aujourd'hui, c'est. Non. Si on veut progresser, il vaut mieux être dur avec soi-même pour pouvoir. Parce que, dans l'occurrence, dans le football, un match gagné et terminé nous donne aucun droit sur le match qui arrive. Hein. Il fallait se remettre au labeur pour pouvoir gagner.
Vous êtes le meilleur buteur de l'histoire des Girondins de Bordeaux, enfin en tout cas le meilleur joueur, celui qui a porté le plus de fois le maillot des Girondins. 592 matchs, 182 buts, je crois, avec le maillot des Girondins. Je me trompe pas sur les chiffres ?
Non, non.
C'est hallucinant. Est-ce qu'à un moment donné, Alain, vous avez, quand il y avait un coup franc, une pensée vers le ciel, ou ça n'a jamais effleuré votre esprit ?
Non, parce que tout ça s'était fait avant. Sur le moment où il y a des situations, de te dire, bon Dieu, là, on interpelle le bon Dieu, j'ai du mal avec ça. Vous savez, par exemple, il y a quelque chose que j'arrivais pas à m'y mettre. Le Notre Père. Le Notre Père, on tutoie.
Ouais.
Moi, je ne peux pas.
Vous dites comment ?
Vous ?
On peut le
notre,
dire.
Oui, notre Père qui êtes aux cieux, donnez-nous.
Que votre nom soit sanctifié,
que
etc.
Votre nom, que ton nom, alors que.
Moi, j'ai du mal. Hein. Du coup, il faut que je réfléchisse, que moi, je dis en tu.
Mais oui, mais bon, parce que moi aussi, je l'ai appris en vous, et moi, je considère que je ne peux pas tutoyer le Seigneur.
Donc, vous voyez à chaque fois le Seigneur quand vous parlez ? À la Vierge Marie, c'est vous, à chaque fois.
D'accord. Oui, oui. Et à la messe, tout le monde autour de moi, tu. Et moi, je suis vous.
Bon. Alain Giresse, vous avez donc ce bel évangile que vous allez pouvoir lire. Hein. C'est un extrait de cet évangile des sportifs. Et ce sera sur le vrai bonheur. J'aime bien cette.
Il n'y a pas une chanson.
Ce passage. Ah, peut-être.
Si. Je sais.
Vous la connaissez ?
C'est de Pascal Obispo.
Ah, ouais.
Le bonheur, j'ai pas droit, quelque chose comme ça.
Oui, bordelais, c'est pour ça.
Ah, Pascal, c'est plus qu'un ami. Alors, heureux ceux qui sont humbles de cœur.
Vous ?
Ben voilà, ça tout dit. Car le royaume des cieux est à eux. Ben, alors voyez, heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La dernière, c'est de se dire, c'est, on fait pas ça que. Voyez, on fait ça parce que je trouve que c'est normal qu'on se comporte de façon humble, avec beaucoup d'humilité, et sans derrière se dire. Si tu fais comme ça, tu as le royaume des cieux. D'abord, c'est pas nous qui choisissons. C'est le bon Dieu qui nous acceptera dans son royaume. Mais on va pas. J'ai l'impression qu'on dit bon Dieu, j'ai fait ça, donc je dois y aller. Non. C'est lui qui lui dira tu t'es bien comporté, tu mérites.
On lit la suite ?
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ah, ça, oui, ça je valide. Ça, je valide, parce qu'il y a des moments qui marquent et que malheureusement, on pleure et qu'on peut avoir du soutien, on peut avoir du réconfort qui nous permettent, évidemment, quand on pleure, c'est que la situation est un petit peu compliquée.
Vous avez pleuré pendant votre carrière ? Est-ce que ça vous est arrivé ?
Par rapport au foot ? Oui, ben, dans le vestiaire, après le match de Séville. Pas que moi, tous, on pleurait. Mais on pleurait comme des enfants à qui on avait... Je sais pas moi, casser un jouet, quelque chose comme ça. Oh, on pleurait. Et là, vous aviez un vestiaire avec. Et Michel Algo nous a dit allez vous doucher, arrêtez. On pleurait comme des enfants. Et puis après, oui, et bien sûr, pleurer quand malheureusement des gens proches de famille nous quittent, etc.
Mais il y a eu des larmes de joie. Et en 84, vous remportez ce titre de champion d'Europe.
Oui, là. Là, c'est autre chose. Non.
Attendez, là, vous êtes au ciel, là, non ? Est-ce que c'est quelque chose, un sentiment indescriptible, quand on gagne comme ça, dans son pays, au parc ?
Ah oui, non, c'est énorme. Oui, d'abord, oui. Et puis, avec son maillot, l'équipe nationale, ce que ça représente. Vous savez, moi, je suis un Français avec, jusqu'au bout des, voilà. Et moi, j'ai des parents. Mon grand-père a fait la guerre. Mes arrière-grands-parents, la première guerre, les ménagers. Wow. C'est, et quand vous aviez ce grand-père à la maison, puisque je vivais avec, qui avait reçu un éclat d'obus au pied, qui était un peu, donc, qui avait encore de la ferraille dans son pied. Et voilà, c'est quelque chose, vous voyez. Donc voilà, et quand on gagne un titre champion d'Europe, le premier de l'histoire du sport collectif, ça marque les esprits, oui.
Alors Alain Giresse, question concernant aussi, et c'est important dans votre carrière, il y a eu ce moment de bascule, parce que vous êtes resté fidèle aux Girondins 16 saisons. C'est juste hallucinant. Et vous allez ensuite à l'OM. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter cette fidélité? Est-ce que cette fidélité, c'est pas un rapport aussi à la foi? La fidélité au Seigneur, c'est aussi la fidélité à un club. Vous êtes un peu un ovni dans le football.
16 ans dans la grande équipe professionnelle, mais depuis l'âge de 10 ans, dans le club. Ah oui, ouais, donc ça vous a rajouté.
Bordelais jusqu'au bout des ongles.
Voilà, on doit être à peu 22 ou 24 ans de présence.
Mais pourquoi, là? Avec le recul du temps.
Mais parce que j'étais chez moi. Je veux dire, c'était mon univers. Alors, vous savez, avec l'historique, c'est quoi? Quand on est gamin, on va au stade du village, parce que mon père y jouait. Donc, vous voyez un stade basique de village, il n'y a sans tribune, rien du tout. Et puis, quand tout d'un coup, vous allez à Bordeaux et que vous voyez ce grand stade, vous dites, c'est quoi? C'est un stade de football? Ça, on ne comprend pas. Et que, ben, finalement, on découvre et puis qu'on y arrive, on arrive à jouer, on est heureux parce que effectivement on se sent porté par quelque chose et on se sent comme un représentant de sa région, de son village, avec des gens qui tout autour, je disais toujours dans les tribunes là, il y avait des gens du village, de mon école, de mon collège, du service militaire que j'ai fait là-bas. Vous vous rendez compte? Je disais, on se connaît tous.
Mais jamais tenté d'aller ailleurs?
Non. Et j'ai eu des demandes, mais non, je me trouvais bien à Bordeaux, j'étais dans mon élément, ça me convenait bien.
Aimé Jacquet était un peu, d'une certaine façon, on va dire énigmatique, parfois, Jean Snella, José Arribas, c'est-à-dire que c'était des personnalités extraordinaire, mais pour le grand public, c'était évidemment, on n'était pas dans le secret du vestiaire. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ces personnalités-là? Est-ce qu'elles avaient aussi, d'une certaine façon, la foi?
Jamais on en a discuté. On a très peu discuté de cela. Vous voyez, je l'ai fait avec un coéquipier comme Bernard Lacombe, parce que, je sais pas, on était très très proches, comme sportifs, mais également familièrement. Non, mais en tout cas, c'est l'apport d'un entraîneur. Et vous avez parlé, Méjaquet, pendant 8 ans à Bordeaux. Oui, parce qu'il savait parfaitement nous mettre dans les meilleures conditions, pas pour, sur le plan mental. C'est sur le plan mental, un entraîneur, qu'il est très fort. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, ah oui, les tactiques des entraîneurs, bien sûr, les organisations, je dirais, il faut les mettre en place. Mais après, quand on est sur le terrain... Vous pensez que chaque match ressemble à un autre match? Jamais. Donc, on doit être capable, justement, parce qu'on a été préparé, de faire face aux nouvelles situations, les trouver, les possibilités d'arriver à percuter et à tromper l'équipe adverse. Et c'est là que les entraîneurs sont, vous avez cité, Aimé Jacquet, Michel Hidalgo avec l'équipe de France. J'ai eu quelqu'un aussi qui, à Bordeaux, qui pourtant n'était pas très connu de l'époque, c'était un entraîneur, Carniglia, qui était un entraîneur qui avait entraîné le Grand Milan, le Grand Real de Madrid. Et moi, quand je me suis dit, salut, mais je suis quoi, moi? Il avait les plus grands joueurs du monde à sa disposition, et moi, j'étais quoi? Rien, encore. Avec des personnes comme ça, ça permet de progresser.
Alors, vous avez été, avant d'être entraîneur, milieu de terrain. Est-ce que Jésus aurait été milieu de terrain?
Mais dites-moi, Jésus, où il a été élevé? Par qui? Par qui il a été élevé? Joseph? Il était quoi, Joseph?
Charpentier.
Et je suis quoi, moi?
Vous avez fait quoi au début de votre vie?
Charpentier.
Ah oui?
Je m'assais appelé charpentier.
Incroyable.
Mais je vous le dis, mes grands-parents, ils avaient un atelier à la maison, l'atelier charpente. Mais dans ce village, vous faites la charpente, la menuiserie, tout ce qui est le bois. Et donc, comme moi j'étais le fils aîné, j'allais prendre la suite. Et donc, J'étais dans un collège d'enseignement professionnel et j'ai étudié la charpente. C'est-à-dire, voilà. Donc j'ai eu mon CAP de charpentier.
Et donc Saint-Joseph, c'est un saint qui vous parle ?
Ah ben, c'est le patron des charpentiers.
Alain Giresse, on va allumer la dernière bougie.
Là, j'ai pas le choix. Hein. Les derniers seront les premiers.
Bah, vous n'avez pas été dernier. Hein,
non, Alain. Mais j'ai du mal, là, vraiment d'arriver à décortiquer ça. Les derniers seront les premiers.
Bah, peut-être que Jésus, les adversaires que vous avez battus, avant d'aller dans votre vestiaire, le vestiaire du vainqueur, il est dans le vestiaire du vaincu pour leur remonter le moral. Ça veut peut-être dire ça, non ?
Je sais pas, parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça, c'est moi, ça, je veux dire, mais les derniers. Je veux dire, si on met ça en avant, ça veut dire que on va, tout d'un coup, on va un peu prendre la mesure au sein de Sidan, ben, il vaut mieux qu'aller. Je vais y aller piano pour finir dernier. Parce que si je suis dernier, je serai premier. Non. Non. Oui, moi, j'aime bien le concret, quoi.
Vous êtes dans l'excellence, Alain.
Non, mais le concret, je veux dire, le concret. Vous êtes les derniers parce que vous avez tout fait pour être premier. Et moi, je ne veux pas que ça se transforme en disant ben, « je vais être dernier, comme ça ».
J'ai bien compris. Alors, j'ai une carte, Alain, pour vous.
Ah, quelle figure de saint vous parle ? Et pourquoi ? Je veux dire, il y a... Mais là aussi, c'est pareil. Ça rejoint un peu. Saint Thomas. Saint Thomas qui...
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, a dit le Seigneur.
Et ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Parce que Saint Thomas, c'est l'inverse.
Ouais.
Saint Thomas, il dit « je crois que ce que je vois ». Alors, c'est vrai, mais... je préférerais, effectivement, je m'appuie sur ça pour plutôt suivre ce que le Seigneur a dit.
Et donc, vous êtes quelqu'un qui a besoin de voir ?
Non, pas obligatoirement, mais c'est, effectivement, on rentre dans une notion de confiance, c'est-à-dire confiance aux autres, qui, on se dit, les autres vont se comporter comme je peux me comporter, vont avoir la même attitude que moi par rapport à ça. Et c'est ça qu'on veut qu'il se passe. C'est-à-dire que vis-à-vis des uns et des autres, qu'effectivement, moi j'essaye d'aller vers les gens. J'essaye de me comporter. Je dis pas, jamais je dirais je réussis. De me comporter le mieux possible au quotidien sur des futilités qu'il y a et puis essayer toujours de faire en sorte de pacifier tout ça. Voilà. Et d'être réel. D'apporter quelque chose, de pas faire semblant, quoi. Quand on a dit qu'on apportait quelque chose, oui, t'inquiète pas, je le ferai. Mais si t'as dit t'inquiète pas, je le ferai, tu le fais. Je le fais.
On a une immense surprise pour vous, Alain Giresse. En face de vous est arrivée dans ce studio la maman d'un grand saint, Carlo Acutis. Bonjour madame.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là. Et vous nous faites une grande surprise, c'est que vous êtes venu avec une image de votre fils. C'est quoi exactement ?
Mais c'est un petit relique pour contact. Et nous savons que les reliques du saint aident beaucoup. Hein. Les exorcistes le disent. Hein, parce que vraiment, les saints ont un grand pouvoir. Et Dieu s'est glorifié avec ces saints. Et alors, on doit avoir beaucoup d'attention, prier toujours les saints. Hein, parce qu'ils nous aident, ils nous accompagnent à devenir saints aussi, nous. Parce que la sainteté, c'est pour tous.
Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qui était votre fils ? Et qui est votre fils parce qu'il est au ciel aujourd'hui ?
Ben, sûrement, Carlo était un garçon qui a vécu une vie normale, mais il a ouvert la porte de son cœur à Dieu, et sa vie normale, ordinaire, s'est devenue extraordinaire, parce qu'il a mis Jésus au centre de sa vie. Il faisait tous un Jésus pour Jésus et avec Jésus. Et alors, sa vie s'est transfigurée. Il a fait sa première communion quand il avait 7 ans, il a commencé à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour, et il est devenu catéchiste. Quand il avait 11 ans, il a commencé à faire aide catéchisme et puis il est devenu catéchiste. Et grâce à cette expérience, il a fait beaucoup de choses. Surtout, il a fait des expositions qui sont partout le monde, dans tous les continents. La plus importante, c'est l'exposition sur les miracles eucharistiques, que ce sont des signes qui sont passés pendant les siècles où Jésus nous montre qu'il est vraiment présent dans l'hostie consacrée. Et alors, cette cette exposition qui fait beaucoup de bien parce que il aide beaucoup de personnes à se rapprocher à la foi, à les sacrements, et vraiment c'est son créature, hein, la chose la plus importante. Mais Carlo, c'était un garçon qui, naturellement, allait en allant à la messe chaque jour, Jésus se donne à nous, et à l'école de Jésus, Carlo a appris à se donner aux autres. Et il a fait beaucoup d'œuvres de charité, surtout il a commencé vers 9 ans à s'organiser comme un caritas domestique. Il a commencé à amener sac à couchage, couvertes, repas pour les personnes qui dormaient dans la route, parce que nous vivons au centre de Milan, et il voyait toute cette tristesse, toute cette pauvreté, et il disait: j'ai tous et ces personnes n'ont rien. Alors vraiment, c'était son esprit missionnaire.
C'est un superbe cadeau que vous nous faites, et le lien avec Alain Giresse, c'est le football. Parce que Carlo Acutis, Alain, ça va vous plaire.
Peut-être, certainement.
Si on parle football, allez-y.
Alors, il était passionné, Carlo, de foot.
Oui, absolument. Le Milan, c'était ça. Mais il aimait aussi d'autres teams, aussi dans le monde. Non, la France aussi, il aimait beaucoup. Mais Carlo n'était pas très doué pour jouer au football. Non, il était en catastrophe, mais il rigolait toujours. Il prenait le sport avec un sourire. Et pour être avec les amis, parce que le sport, c'est un bon moyen pour nous renforcer dans notre volonté, pour faire le bien, pour éviter que nous prenions des roues qui ne sont pas très bien, non? Parce que le sport, c'est vraiment un aide, hein, aussi pour notre spiritualité.
Ça doit vous toucher, Alain Giresse.
Oui, non, mais oui, bien sûr, quand fatalement par le sport, du football particulièrement. Après le Milan, c'est très grand club. Non, je fais pas de contestation. Non, mais vous avez raison de dire le sport, c'est une belle école de la vie aussi, parce que bon, ça répond aussi à des règles, évidemment. Bon, il y a la pratique, mais il y a aussi les règles que l'on doit respecter, et qui plus est, par rapport quand on est par rapport à ses adversaires, on doit. Alors, je vais pas dire, on ne doit pas les combattre. C'est pas ça. C'est pas le terme tout à fait approprié, mais on joue pour gagner, et l'adversaire joue pour gagner aussi, mais avec le respect, le respect qu'on doit avoir par rapport justement à ce que ce n'est que du sport, c'est que du sport, et encore plus dans le sport collectif, parce qu'on n'est pas seul, c'est tous ensemble que nous allons faire un match, nous allons le gagner tous ensemble, ou nous allons le perdre tous ensemble. Et si on a perdu, c'est peut-être qu'on n'a pas été assez bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait, que les autres ont été meilleurs. Voilà, et on peut raisonner comme ça, parce que, et non pas tomber dans des travers où tout d'un coup on a l'impression que c'est une véritable guerre qui s'engage quelquefois entre les supporters d'un côté et les supporters de l'autre. Ça, c'est regrettable.
Madame Acutis, est-ce que Carlo est allé au stade une fois, ou en tout cas, est-ce qu'il avait regardé quelques matchs de l'AC Milan? C'est un club qu'il suivait beaucoup.
Oui.
Le stade San Siro.
Oui, San Siro, pas beaucoup, mais l'an qu'il est sali au ciel, il avait l'Italie qui a gagné, je pense,
les
Coupes du Monde.
La Coupe du Monde 2006, oui, ça nous a fait grand mal.
2016, non? 2016. Si. C'était
2006, ouais.
2006 contre la France.
Oui.
C'est bon, il y a l'Euro de football aussi, où l'Italie a effectivement gagné en 2021. Mais alors, Carlo, il est décédé en quelle année?
2016.
Alors, l'Euro 2016, c'était en France, et la France était finaliste, effectivement.
Ah, okay. C'est ça.
Et Carlo est décédé à quel âge?
Et 15 ans.
Et donc le sport pour lui était important. Ce que vous dites, c'est un beau message aussi, le corps, parce que le corps, il l'a laissé. Il est resté, et d'ailleurs, on peut le voir assis, je crois.
Oui, dans le sanctuaire de la spoliation, le lieu où Saint François a commencé sa vie religieuse, qu'il laissait tout le monde. Il était embrassé de l'évêque Guido d'Assise, et il a commencé son chemin de conversion. Et c'était un peu un lieu spécial, parce que c'est un lieu où ça commence la vision spirituelle de Saint François, qui c'est un des plus grands saints que nous avons eu. Et vraiment, quand on va dans ce sanctuaire, c'est comme un appel pour tous, pour commencer vraiment cette vie en Dieu, pour laisser toutes les choses qui ne sont pas bien et pour commencer à faire ce chemin de sanctification qui c'est l'appel que Dieu fait à tous. Hein. Mmh. Et c'est pour ça que le sport c'est très important parce que la sainteté c'est une attitude, c'est de vivre héroïquement les vertus chrétiennes qui sont plus de 50 et disent et qu'est-ce que c'est une vertu? C'est une attitude sable de la volonté au bien et ça veut dire la volonté. Alors pour notre volonté de faire du bien, le sport c'est vraiment une aide extraordinaire. C'est un médicament, c'est quelque chose qui nous fait renforcer notre volonté aussi, qui nous aide hein, avec les comme avec à étudier plus, à être plus bon, à être plus ferme dans notre.
On vit avec un corps, c'est important, mais il faut pas non plus en faire trop avec son corps. Il faut trouver le juste milieu.
Oui, absolument.
Pas simple.
Oui.
Vous êtes supportrice de l'Inter. Et comment vous avez fait avec votre fils qui a adoré l'AC Milan? Là, c'est là, quelque chose que je ne comprends pas.
Et non, parce que mon père était de l'Inter. Alors, moi, je suivais mon père. Ouais. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mes fils sont tous de Milan. Alors, c'est un mystère. Mon mari, c'est de la Juventus. Il y a un peu de faction dans notre famille. Mais moi, je ne suis pas très...
Oui. Supportrice.
Oui, mais je suis content, c'est l'Inter va gagner.
Bon, écoutez, pour l'instant, là, c'est Milan et l'Inter, Alain. C'est...
Ah, c'est bien. Maintenant, ça reste deux grands clubs. D'un club. Vous savez, regardez. Votre famille était partagée. Il y a eu quand même.
Des titres, hein, un peu partout.
Frères,
hein.
Des frères qui jouaient dans un club et dans l'autre.
Ah oui.
Eh oui, les Baresi.
Ah oui, les Baresi, c'est Baresi, vrai.
Vous imaginez les parents qui avaient les enfants, un avec dans Milan, l'autre dans l'Inter.
Ah, incroyable.
Qu'est-ce qu'on fait le jour de match? On est pour qui?
Non. Mais disons que vraiment, Carlo aimait le sport, mais comme je disais, avec un grand équilibre, balance. Mmh. Hein?
Merci beaucoup d'être venu. Et on va conclure cette petite parenthèse enchantée, cette surprise que vous nous avez faite par la parole de Carlo. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Et je pense, Alain, que l'Eucharistie compte beaucoup aussi pour vous dans votre vie.
Oui, c'est une belle, belle formule, en tout cas.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci.
Et vive le sport. C'était quand même un moment incroyable. La maman d'un saint. Vous parliez de saint, donc ouais, Saint Thomas. Là, vous avez un saint, vous avez une relique dans votre main.
Oui, exactement. Mais là, j'avoue que là, je suis sans voix. Hein. Je veux dire, c'est quelle histoire, c'est impressionnant. Puis cette dame, cette maman qui parle comme ça de son fils. Alors, on va dire, son fils, c'est plus que particulier et spécial. Ouais, mais c'est unique au monde, ça.
Et puis, il aimait le foot, en plus.
Qui plus est, d'une part. Mais là, j'avoue, j'étais bluffé, quoi.
Alors, dans votre carrière de footballeur, Alain Giresse, vous êtes allé à Marseille deux saisons. Ça a été un gros changement pour vous, parce que vous étiez intimement lié aux Girondins. D'ailleurs, après, vous revenez, vous êtes directeur sportif. Et à Marseille, il y a quelque chose de particulier. Enfin, il y a deux événements. Il y a d'abord ce stade Vélodrome, qui est un peu comme une église géante, où là, il y a une communion forte avec les supporters. Il faudra nous raconter ça. Et puis aussi, la Bonne Mère.
Je m'en doutais.
Est-ce que vous êtes allé la voir, la Bonne Mère?
Bien sûr.
Là-haut, sur sa tout en haut.
Oui. Et ma famille y allait les jours de match.
C'est vrai? Oui. À Notre-Dame-de-la-Garde.
Oui. Ils montaient là-bas en haut. Ils montaient. Moi, j'étais pris avec le club, avec la concentration, etc., la mise au vert. Et je m'appelle le plus petit qui est Thibaut, qui a été joueur de foot après, le plus souvent, il disait...
Oui, Thibaut a été joueur à Toulouse, à Guingamp.
Bien sûr, et là il disait, c'est ma femme qui disait, « Eh bonne mère, il faut que l'OM gagne ce soir !» Il lui demandait demandait ça.
C'est tellement beau.
Mais si vous allez à Marseille, vous ne pouvez pas échapper à la bonne mère. Ceci dit, je n'avais pas besoin qu'on me le dise. Hein.
Oui.
Sachant qu'il y avait la Bonne Mère à Marseille, ça c'était.
Et le Vélodrome?
Ah, le Vélodrome, c'est à part. Une ambiance extraordinaire. Mmh. L'ambiance qu'il y a, et la façon dont les Marseillais vivent avec l'OM, c'est l'OM, c'est à tous les coins de rue, l'OM. Puis c'est extraordinaire parce qu'on ne dit pas, ce week-end je vais au match, là. Non, je vais à l'OM.
Mais bien sûr, c'est parti de la vie des gens. Bien sûr.
Oui, c'est extraordinaire.
Vous avez joué avec JPP, Chris Waddle, Carlos Moser, ce sont des.
Non. Attends, JPP, oui.
JPP,
oui. Oui, non, c'était des Carlos Foster, ouais. Jean-François Domer, Joseph-Antoine Bell. Et c'était Joseph encore Antoine la transition qu'il y avait entre cette équipe des Minots.
Ah oui, les Minots de Marseille, oui.
Voilà, et de la construction de l'équipe par Bernard Tapie. Mmh. Et on a été je faisais partie des joueurs un peu expérimentés qui arrivaient avec Carlos Foster, etc., pour finalement faire une transition qui fait que on a permis à Bernard Tapie de gagner un peu de temps, hein, en finissant deuxième et finaliste de coupe, pour après qu'il puisse bâtir une équipe capable d'être, de gagner la Ligue des Champions.
Quel est votre regard sur Olivier Giroud, qui parle beaucoup de sa foi, Alain Giresse?
Ben c'est bien, c'est quelque chose qui est important pour lui, il en parle. La preuve, moi aussi j'en parle, hein, publiquement. Mmh. Puis en plus, moi j'aime le personnage. Mmh. Au-delà du joueur. Le joueur, buteur, etc. Moi, je l'ai croisé et on voit quelqu'un qui a le respect de l'histoire du football et qui, dans son comportement, on voit... Est-ce que vous l'avez vu un petit peu? Pourtant, il est avant-centre et le marquage des défenseurs, c'est pas simple. Voilà, un comportement toujours clean. Voilà.
Vous êtes entraîneur, Alain Giresse. Est-ce qu'il y a des similitudes avec le rôle de prêtre qui est un coach de la foi? Est-ce que vous auriez peut-être eu ce désir de vocation ou ça n'a jamais traversé votre esprit?
Oui, mais là où je rejoins, c'est un prêtre s'occupe aussi de tous ses patients.
Oui, c'est un coach de l'âme, c'est un médecin de l'âme.
Oui, c'est ça. Mmh. Et il essaye d'apporter le plus à tous les patients pour leur permettre, voilà, de vivre bien leur foi et de se sentir à l'aise. Et il est là pour ça, quoi. Il est là pour ça, comme un entraîneur fait en sorte que il fait tout. Vous savez, il y a le grand manager grandit en faisant grandir les autres. Mmh. Mais vous mettez le grand entraîneur grandit en faisant grandir ses joueurs.
Est-ce que Jésus c'était un entraîneur?
Ah, c'était
parce qu'il avait une drôle d'équipe quand même. Hein.
Oui, mais c'est pas forcément un entraîneur, c'était un manager. Mmh. C'est le management. Et je dis toujours quand je parle, quand je m'adresse à Jésus, c'est que je lui rends grâce pour ce qu'il est venu pour nous montrer que devait être une vie, une vie sur terre comme ça. Et il a payé de sa vie, mais ça, je peux pas oublier ce qu'il a, la façon dont il nous a démontré tout ça.
Vous êtes allé à Rome avec le Variété Club de France de Jacques Vendroux. Vous êtes allé voir le pape?
Je n'y étais pas moi, mais par contre, mon épouse était venue. J'étais malheureusement pris par une sélection, oui. Mais j'avais été parce que pendant la Coupe du Monde, j'avais pas pu m'approcher du pape, parce que c'était par la Coupe du Monde en Italie, j'avais été au Vatican.
Et le Vatican, c'est un lieu important aussi pour vous?
Le Vatican, c'est un lieu très important. Le pape est une personne très importante. Je dis, si le pape passait dans ma région, mais je ferais le détour. J'irai voir. J'irai, aller pas le rencontrer, mais l'écouter, oui, bien sûr.
Est-ce que vous diriez que vous êtes béni par votre vie, par le Seigneur?
J'ai pas à me plaindre, donc je considère que oui, le Seigneur m'a aidé, ou en tout cas m'a apporté tout ce que j'ai connu et tout ce que je vis.
On termine par cette carte et cette question.
Quel est l'athlète à qui vous souhaiterez passer le micro? Ben, je dirais à tous ceux qui ont la foi, à tous ceux qui viennent parler au micro de la foi. Je crois que c'est important d'entendre les autres, comment ils la vivent. C'est des échanges. C'est des échanges, je vais prendre une formule très d'entraîneur, des échanges de tactique.
Ah oui.
C'est l'échange de la tactique. Comment? Quelle est ta tactique à toi vis-à-vis de la foi? Quelle est la mienne tactique? Est-ce que, bon, football, on dirait 4-2-3, 4-2-4, machin, etc. Et toi? Et voilà. Ah oui, je trouve.
Mais vous, la tactique, c'est offensif, hein?
Ah oui.
Droit au but.
Oui, il faut. Bien sûr qu'il faut défendre, mais. Il faut aussi savoir bien attaquer.
Merci beaucoup Alain Giresse.
Avec plaisir.
C'était un beau moment, les athlètes de Dieu. Vous êtes un athlète de Dieu. Et on se retrouve évidemment sur l'antenne d'Europe 1, puisqu'on rappelle que vous êtes le consultant football de cette très belle radio.
Exactement, voilà. Et l'athlète de Dieu, allez, je veux dire, modestement, ça me plaît.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, avec le soutien d'Holy Games.